France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
C'était il y a 10 ans à Paris. La COP21 sur le climat avait suscité une belle vague d'espoir pour tous ceux qui se préoccupent du changement climatique. Mais aujourd'hui, les objectifs de cet accord de Paris semblent hors de portée, tous les pays n'ayant pas tenu leurs promesses, à commencer par les États-Unis de Donald Trump qui ont préféré même sortir de cet accord. À Belém, au Brésil, ce vendredi est en principe le dernier jour prévu de négociation de la COP30. Mais il pourrait y avoir prolongation. Ça bloque ce soir. Les pays de la planète n'ont toujours pas les mêmes positions sur l'avenir des énergies fossiles. Opposés également sur les aides financières pour accompagner les pays en voie de développement dans leur transition énergétique. Dans l'attente donc de la déclaration finale au Brésil, nous ne ferons pas ce soir le bilan de la COP30, mais nous allons explorer ces 10 dernières années de COP censées apporter des réponses à la crise climatique. C'est le thème du Téléphone Sonne. J'attends vos questions, vos appels, vos témoignages. 01 45 24 7000, le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Avec ce soir, pour répondre à vos questions, Lola Valéjo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes de la Fondation européenne pour le climat, vous y êtes directrice de l'équipe diplomatie. Vous êtes spécialiste des questions liées au climat et vous avez dirigé le programme climat de l'IDRI, l'Institut de développement durable et des relations internationales. À vos côtés, Nicolas Verken, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des campagnes, du plaidoyer et des programmes chez Oxfam France. Car le changement climatique a, on va en reparler ce soir, un impact direct sur les inégalités et la pauvreté à travers le monde. Et puis nous sommes en ligne avec ma consoeur Sandy Dauphin, bonsoir.
Bonsoir Éric.
En direct de Belém au Brésil, spécialiste de l'environnement à la rédaction de France Inter, envoyé spécial. Donc, je vais commencer avec vous, Sandy. On vous a entendu hein, dans le journal de 18h. On va évidemment prendre les appels des auditeurs dans un instant. Les énergies fossiles, elles provoquent donc des crispations ce soir à Belém. La COP pourrait même s'achever sans trouver d'accord. Que se passe-t-il précisément, Sandy, ce soir?
Alors c'est ce que dit l'Europe hein, qui a tapé du poing sur la table. Elle dit qu'elle n'exclut pas que la COP se termine sans accord. Alors il faut quand même faire attention parce qu'on est dans les dernières heures de négociation. C'est assez classique que le ton monte, il y a des crispations, beaucoup de postures aussi ici. Donc ça ne veut pas dire que la situation ne va pas se débloquer d'un seul coup. Mais pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce qui se passe parce que ça se passe en coulisses pour tenter de sortir du blocage. Mais c'est vrai qu'il y a de la nervosité dans l'air.
Il y a de la nervosité dans l'air et l'Europe effectivement qui menace de ne pas signer l'accord final. D'ailleurs Sandy, je reviens vers vous, quel poids a l'Europe dans ce débat?
Bah pendant très très longtemps, l'Europe, ça a été quand même la locomotive hein, dans la lutte contre le changement climatique. Donc elle a été exemplaire, elle a baissé ses émissions de CO2 de moins 40% depuis 1990. Elle a un plan climat, elle fait beaucoup d'efforts. Et c'est ce qu'elle ne cesse de répéter ces derniers jours, qu'elle fait beaucoup d'efforts et qu'elle aimerait bien que les autres pays s'y mettent. Mais c'est vrai que cette année, on la sent un petit peu plus en retrait. Il faut dire qu'elle est arrivée avec cette COP, avec un plan climat à la dernière minute. On voit qu'il y a quand même des divisions. Vision au sein de l'Europe, c'est moins facile qu'avant.
Merci, on va vous retrouver un peu dans, au nom de cette soirée de ce téléphone sonne, 01 45 24 7000 pour le standard. Éléonore est en ligne. Bonsoir Éléonore, vous nous appelez de Boulogne-Billancourt.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes à l'antenne.
Merci. Ouais, j'avais en fait le titre de votre émission m'a fait réagir parce que est-ce que les COP sont importantes? Mais les COP sont ultra importantes parce que si les États commencent pas à se mettre d'accord et si on n'en parle pas à la radio et s'il n'y a pas des lieux de négociation au niveau des gouvernements, et ben derrière il y aura pas les entreprises, il y aura pas les citoyens qui consommeront différemment. Il faut que les lois changent et sans États qui se mettent d'accord ou sans États qui tracent une direction, il n'y aura pas de changement.
Merci de ce témoignage. Je vais le soumettre pour commencer à Nicolas Verken, qui est directeur des campagnes du plaidoyer et des programmes chez Oxfam France. Une COP, c'est environ près de 200 représentants qui se réunissent, représentants d'États membres des Nations Unies et de l'Union Européenne, les pays signataires aussi de la Convention sur le climat, sont aussi des lobbyistes, des scientifiques, je ne parle pas des journalistes encore, mais des ONG, des représentants des peuples autochtones. Quelle dynamique, souligne Éléonore, quelle dynamique génère des COP?
Je vais commencer par abonder dans le sens d'Éléonore et faire le verre à moitié plein. On ira probablement après sur le verre à moitié vide. On est 10 ans après l'accord de Paris. On est passé d'un monde qui allait se réchauffer jusqu'à 4 degrés à un monde qui, en l'état des engagements des États et de leur politique actuelle, ne se réchauffer que de 3 degrés, ce qui est beaucoup trop, ce qui est catastrophique en termes d'impact sur les populations les plus vulnérables. Mais il y a ce progrès-là sur la base des politiques actuelles. Et si on regarde leurs engagements actuels et révisés, on aurait un point d'atterrissage à la fin du siècle autour de 2,5 degrés à peu près. Voilà. Donc il y a eu un progrès en 10 ans sur la réalité de la réduction, de la trajectoire de réduction des émissions et des engagements. C'est pas suffisant. Mais s'il n'y a pas cette discussion-là, cette discussion macro au niveau des États, derrière, ça embraye pas au niveau de l'Union européenne qui va discuter d'un plan climat, de directives pour encadrer les entreprises. Ça va pas coulisser aussi au niveau français, au niveau national, avec adopter une stratégie nationale bas carbone, etc. Donc, c'est un jeu de poupée russe, mais il faut bien faut avoir le grand espace collectif et multilatéral, même s'il a beaucoup de défauts et d'insuffisances, on va y revenir, pour derrière aboutir aux engagements législatifs, budgétaires, qui effectivement changent la donne.
Une COP, c'est donc d'abord une dynamique, même si les résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs. Lola Vallejo, je rappelle que vous êtes directrice diplomatie au sein de la Fondation européenne pour le climat. En quoi la COP 21, il y a 10 ans, en quoi cette COP a-t-elle été un tournant dans la diplomatie climatique ?
Alors la COP 21, c'est un énorme succès diplomatique pour la France et je pense qu'il faut en être fier. La France avait utilisé son énorme réseau d'ambassades pour avoir un vrai engagement avec beaucoup de pays. Et peut-être pour faire le parallèle avec une COP à Copenhague, à la COP 15, qui avait beaucoup marqué les esprits et qui avait été beaucoup vue comme un échec parce qu'on l'avait accusée d'être trop secrète. La France avait beaucoup travaillé justement pour faire une diplomatie transparente, ne pas avoir de textes tout faits dans la poche.
Et qu'on arrive parfois avec des textes tout faits.
Parce que parfois c'est le risque et c'était un peu comme ça que la COP de Copenhague s'était un peu effondrée. Il y avait eu cette idée qu'à un moment, on parle qu'avec les pays les plus importants et on parle plus en collectif. Or, les COP, leur principale légitimité, c'est que justement, les petits pays, ceux qu'on n'invite pas au G7, au G20, ils ont voix au chapitre et je dirais même c'est la conscience de ces COP. Et si on les exclut et si on les inclut pas dans le processus aussi, ça peut avoir l'air un petit peu technique. Eh ben, on a un résultat moins légitime. Et la COP de Paris, pour revenir à la très bonne question d'Éléonore, elle s'est aussi beaucoup appuyée sur le fait que les entreprises, que les États, les provinces, les villes pouvaient donner une autre énergie et pouvaient donner un mandat aussi aux pays. Donc finalement, c'est pas juste les États qui montrent des signaux qui ensuite percolent, mais ça peut aussi aller dans l'autre sens. Et la COP 21, elle avait vraiment montré ça.
À quoi ont servi les COP, notamment depuis 10 ans? On en parle ce soir jusqu'à 20h. Patrice nous appelle de la Meuse. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir tout le monde.
On vous écoute.
Bah écoutez, on peut être très écologiste, et c'est mon cas, tout en se heurtant au principe de réalité. Les forages de pétrole ont existé depuis longtemps dans le monde, mais ne reste-t-il pas indispensable, sachant que des dizaines de millions de véhicules thermiques tourneront encore au moins 20 ou 30 ans, qu'on ne va pas mettre au rebut tout de suite, il faudra bien les alimenter. Et pour ma part, moi je déplore quand même qu'il y a chez de nombreux analystes un manque de vision systémique, qui relève souvent de l'hypocrisie. J'en veux pour preuve deux exemples. La première façon de diminuer le réchauffement climatique, c'est de modérer ses déplacements. Et avec toutes les pubs de voyage que l'on voit aussi en Europe, ça n'en prend pas le chemin, ce n'est pas toujours évoqué. Et puis le deuxième exemple, un exemple que connaît bien Sandy Dauphin, je trouve que quand même, il y a une malhonnêteté intellectuelle de déclarer haut et fort que la voiture électrique qui va remplacer la voiture thermique, c'est une voiture propre, alors qu'en France, elle tourne principalement à l'énergie nucléaire, sachant que le fait de cette énergie reste quand même dangereuse, produit des déchets qu'on ne risque pas d'enfouir sous le sol parisien. Mais chez les Meusiens, aux instances locales, disons-le, intellectuellement corrompues, et dont les médias se gardent bien de parler. Parce que finalement, chez les technos, ça n'intéresse pas grand monde.
Donc, eh bien, merci de l'avoir dit en direct ce soir sur France Inter. Patrice de la Meuse, sur l'hypocrisie, peut-être, je vais me retourner vers Sandy Dauphin, envoyé spécial de France Inter à Belém au Brésil, l'hypocrisie des politiques, cette espèce de vision qui se percute forcément dans cette COP, et dans toutes les COP, et notamment cette dernière COP. Il y a de l'hypocrisie politique, forcément, quand on parle de réduire la pollution, le climat, ce dossier que vous connaissez bien, Sandy.
Les cas, c'est en fait, on est dans des COP où on nous dit en début de COP, on va écouter la science. C'est quand même un leitmotiv ici, parce que la science a été très attaquée hein, ces derniers mois. Et donc la science, elle est très claire. Elle dit qu'il faut sortir des énergies fossiles. Donc voilà, c'est le dilemme des pays.
Je me retourne vers Lola Vallejo pour la Fondation européenne pour le climat. Hypocrisie, disait cet auditeur, dès qu'on parle de réduire la pollution, de rendre le climat plus viable. En quoi est-ce une hypocrisie ?
Alors déjà, je pense qu'il faut effectivement reconnaître l'ampleur de la tâche et le fait que ça requiert des changements systémiques. Je pense que le mot de Patrice était très bien choisi. On doit aussi parler de la question de la demande. Et finalement, souvent, les populations, les entreprises, peuvent avoir besoin de services, mais pas forcément des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz qu'il y a derrière. Donc, par exemple, sur la question des déplacements et des consommations énergétiques, avec la guerre en Ukraine, tout d'un coup, on a redécouvert les vertus de la sobriété énergétique et de l'efficacité énergétique. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut qu'on prenne en compte. Mais il y a aussi un deuxième aspect de la question de Patrice qui m'a interpellée sur le fait qu'on parle des solutions vertes qui sont pas tout le temps propres ou qui peuvent aussi avoir des effets sur l'environnement. Effectivement. Par exemple, alors Patrice a parlé du nucléaire, mais on parle aussi beaucoup du fait que des minéraux très importants pour la transition requièrent par exemple d'être extraits. Et j'ai beaucoup entendu des gens être surpris du fait que les voitures électriques allaient aussi entraîner des pollutions, qu'est-ce qu'il en est, etc. Et il faut quand même être très clair, ça reste beaucoup plus propre d'utiliser des véhicules électriques que des véhicules thermiques.
Sauf qu'on se demande ce que deviendront les batteries au lithium quand 1 milliard de voitures seront à disposition des Chinois, 1 milliard à disposition de l'Inde. Ces batteries, il faudra les enterrer. Après avoir pollué l'air, on va polluer la Terre ?
Non, parce que ces batteries, on sait les recycler. Et c'est justement parce qu'on est devant ce changement d'ampleur qu'il faut dès le début se dire comment est-ce qu'on va éviter de rentrer dans un schéma d'économie circulaire et en fait être beaucoup plus intelligent et efficace avec les ressources qu'on utilise. Et ça, c'est quelque chose que la Chine et d'autres pays ont beaucoup compris. Et finalement, c'est un enjeu aussi en Europe qu'on devienne beaucoup plus efficace en termes de recyclage.
01 45 24 7000, Christian nous appelle de Montpellier. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, écoutez, je me permets de me présenter. À Paris, on me connaît moins qu'à l'étranger. Hein. Bon, voilà. Donc, je suis explorateur, chercheur écologue et photographe.
Est-ce que vous êtes Christian Puech ? On vous a reconnu, Christian Puech.
Oui, je suis le seul Français à avoir été sélectionné par un groupe de scientifiques étrangers pour effectuer une conférence à la Sorbonne. Si vous tapez sur Presenza et vous tapez Amazonie face au réchauffement climatique, vous avez tout le problème. Voilà. Alors, ce problème, il est tout simple. Vous avez 39, grâce à entreprises du CAC 40 qui se retrouvent au Brésil avec des intérêts colossaux. Et le Brésil exporte 83% des minerais. Les Allemands ont besoin de ce minerai. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du côté des hommes politiques, non pas une hypocrisie, mais un double discours. Je comprends qu'ils sont piégés par le capitalisme d'un côté et par les problèmes sociaux que nous avons. Mais enfin, voilà, au lieu de s'adresser à des hommes hétérodoxes, comme c'est mon cas. Jamais, jamais, la droite, M. Macron ou d'autres, ne s'intéressent à des personnes qui parlent comme moi, autant avec des ouvriers qu'avec des milliardaires. Et il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a un manque d'ouverture d'esprit. Voilà.
Alors, Christian Puech, merci d'être intervenu. On ne va pas vous donner la parole pendant plus... ou alors, il aurait peut-être fallu vous inviter ce soir. Merci de cette intervention. On y revient, et je reviens vers vous, Nicolas Verken, cette fois-ci, pour parler non plus d'hypocrisie, mais de double discours des politiques. À Oxfam, vous le vivez quotidiennement, ça aussi, ce double discours quand on est politique et qu'on veut réduire la pollution sur la planète ?
Le double discours, oui. Alors, et puis au-delà des de calculs ou de manigances, c'est aussi une question de pas de temps. Quand on parle des intérêts des entreprises, j'ai envie de dire, mais quels intérêts de quelles entreprises? C'est des intérêts à 6 mois ou c'est des intérêts à 30 ans? Si on raisonne aujourd'hui sur la valeur et la viabilité d'un grand groupe industriel international à 30 ans, et la valeur qu'il va créer dans la durée pour ses actionnaires, pour ses salariés, pour ses parties prenantes, ce grand groupe a tout intérêt à prendre le virage de la transition écologique, à être plus performant et plus efficient,
c'est un cercle vertueux.
C'est un cercle vertueux. Il va aussi mobiliser à moyen terme plus et mieux ses actionnaires, plus et mieux ses salariés. Il y a plein de grands groupes qui aujourd'hui voient qu'ils ont des problématiques d'employeurs pour fidéliser des salariés motivés à travailler pour des entreprises qui polluent. Et à contrario, le problème, c'est qu'on a des grands groupes aujourd'hui dont les choix stratégiques, en réalité, sont dictés sur du court terme, sur du 3 mois, 6 mois, 1 an, sur de la rentabilité immédiate de l'action vis-à-vis des actionnaires. Et c'est là où il y a des choix stratégiques à opérer et des responsabilités des États, de l'État français, de l'Union européenne. Aujourd'hui, ces États-là, ils ont la possibilité de forcer les entreprises à être plus vertueuses. Mais c'est pas pour les punir, c'est pas pour entacher durablement leur compétitivité, c'est pour leur permettre elles d'être plus compétitives à moyen et long terme dans un monde qui sera plus durable et plus vivable pour tous.
Et je rappelle que Oxfam, avec Greenpeace et d'autres ONG, ont fait condamner l'État français. Hein, donc vous l'évoquiez à demi-mot pour inaction climatique dans ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. Est-ce que c'était une première d'ailleurs de faire ainsi condamner l'État pour inaction climatique?
En France, oui. D'ailleurs, le juge l'a même condamné 2 fois. Ça a été confirmé. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a des engagements internationaux qui sont à la base insuffisants, qui sont en plus partiellement retranscrits dans des stratégies et des lois nationales, qui elles-mêmes ne sont que partiellement mises en œuvre. Et c'est là, et à quoi sert la COP? Ça sert aussi à ça. Ça sert à ce moment, ce que disait la première auditrice, c'est ce moment où on formalise la redevabilité, le moment où on rend des comptes. On fait le point sur où on en est collectivement, sur chaque État où on est de sa trajectoire, et on doit rendre des comptes aux autres États, mais à l'opinion publique mondiale, aux citoyens, aux journalistes, et voilà. Et on ne peut plus s'arranger dans son petit coin, on doit rendre compte de la manière dont on est en train de faire cramer la planète.
Rendre des comptes, mais à base de consensus. Lola Vallejo, depuis 30 ans que s'enchaînent les négociations climatiques, le consensus, le compromis, c'est la règle, vous qui êtes spécialiste de la diplomatie?
C'est effectivement la règle, mais avant de répondre à la question, je voudrais juste reprendre peut-être une lueur d'espoir, parce qu'on a aussi parlé beaucoup de compromission, d'hypocrisie. Il faut voir aussi le fait que la transition énergétique, elle a été entamée de façon irréversible, c'est important. Il y a 5 ans, on avait autant d'investissements dans les fossiles que dans les énergies propres. Et aujourd'hui, on a 2 fois plus d'investissements dans les technologies propres que dans les fossiles. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, même si les États ne vont pas assez vite, y compris en Union européenne.
40% de l'électricité mondiale est aujourd'hui produite par des énergies renouvelables. C'est un taux record. Les experts ne l'avaient envisagé, je crois, que pour 2040. On a gagné du temps.
Oui, absolument. Et je pense que c'est quand même un facteur d'espoir. C'est que la croissance du solaire et de l'éolien, du solaire en particulier, elle a vraiment déjoué tous les pronostics et elle a été beaucoup plus rapide que tout ce qu'on pouvait anticiper. C'est aussi pour ça, en regardant ces tendances actuelles, que l'Agence internationale de l'énergie a dit qu'il ne faudrait plus forer de nouveaux puits de pétrole de 2021 pour tenir nos objectifs de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ça ne veut pas dire arrêter, couper le robinet du jour au lendemain. Ça veut dire, en fait, on risque d'avoir une surcapacité de combustibles fossiles si ces tendances-là continuent.
30 ans de COP et 10 ans après la COP de Paris qui avait suscité autant d'espoir. À quoi servent les COP? C'est le thème du téléphone sonne. On en parle jusqu'à 20h.
France Inter. Le téléphone sonne.
Philippe nous appelle du Vaucluse. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
De me prendre à l'antenne.
Avec plaisir.
Voilà. Donc, pour faire suite, un peu contraire à ce qui vient d'être dit, moi je pense que les COP ne servent absolument à rien. quand on a des regroupages d'États qui sont là, qui se regardent les uns les autres pour voir qui va faire un pas ou qui n'en fera pas, comme ça, c'est pas bien facile et bien pratique. Elle n'existe plus en Afrique, maintenant c'est total.
Je suis désolé de vous couper, donc, Philippe, mais...
Non, mais c'est pas du tout pour le fond
que je vous coupe la parole. Et on a bien compris, les COP ne servent à rien. Si je vous coupe, Philippe, comprenez-le bien, c'est pour la mauvaise, très mauvaise qualité de l'écoute, pour nos auditeurs qui ne vous entendent pas, Philippe. J'en suis vraiment navré et désolé. On va réessayer, faites un pas de côté, un mètre sur la droite ou sur la gauche, où vous voulez, et on va réessayer de vous reprendre à l'antenne. Philippe, vous disiez que les COP ne servent à rien.
Voilà. Oui, les États se regardent, enfin les chefs d'État se regardent pour voir qui va faire un pas et qui n'en fera pas. Comme ça, ça permettra de justifier de ne pas en faire l'un. Elf n'existe plus, mais Total est toujours présent en Afrique. Et je pense que ce qui peut nous, entre guillemets, nous sauver ou retarder le réchauffement climatique, c'est toutes les actions individuelles, qu'elles soient communales, particulières, ailleurs dans le monde ou en France. Comme on parle des carnets de campagne, mais merci. Il n'y a rien à attendre des États.
Merci Philippe. Alors Lola Vallée-Joux disait un peu le contraire, et même nos deux invités, également Nicolas Verken, pour dire que finalement il y a une dynamique, il y a du bon dans toute COP, même si effectivement les objectifs ne sont pas à la hauteur. Les COP ne peuvent pas tout, Lola Vallée-Joux.
Oui, les COP ne peuvent pas tout, mais les COP finalement, elles peuvent. Si, non, je pense qu'elles peuvent beaucoup. Finalement, elles servent à quoi ? On a beaucoup d'endroits où tous les pays se parlent, soit entre gros, comme je parlais du G7 ou du G20, entre les gros pays avec une grosse population, une grosse économie, ou alors sur des sujets très larges de l'Assemblée générale de l'ONU. Et finalement, les COP, c'est le moment avec une forte pression politique où on a des avancées, justement parce que tout le monde est là et le point d'entrée, c'est l'urgence climatique. On voit que c'est d'ailleurs attaqué. Hein, Sandy faisait allusion, Sandy Dauphin, au fait que...
Enfin, l'envoyé spécial de France Inter à Belém.
Tout à fait, que la science est aussi attaquée et critiquée. On voit le retrait des États-Unis très différent du premier mandat du président Trump. Il y a des attaques beaucoup plus massives, non seulement sur le consensus scientifique, mais aussi sur le fait que d'autres pays fassent chez eux les politiques climatiques qu'ils ont envie de faire. Et donc c'est important. Et peut-être ce qui se passe dans les COP et qui ne se passe pas ailleurs, c'est par exemple quelque chose qui s'appelle le Club Climat, où une quarantaine de pays dits du Nord et du Sud, développés et en développement, qui participent ensemble à un effort commun pour décarboner l'industrie. Et finalement, ce genre de choses, ça se passe que dans les COP, et les COP, ça sert d'accélérateur et de catalyseur pour des collaborations qui, sinon, n'auraient pas lieu.
Et puis, il y a aussi dans ces COP le financement des pays les plus défavorisés, qui attendent des aides pour faire eux-mêmes leur transition écologique, leur transition énergétique. À Bakou, la COP 30 avait, la COP précédente, celle de Bakou, COP 29, donc, avait envisagé une enveloppe de 300 milliards, je crois, 300 milliards d'euros de dollars pour aider les pays les plus pauvres à financer cette transition énergétique. Nicolas Verken à Oxfam, est-ce que vous êtes inquiet ce soir sur la feuille de route qui se prépare ou qui ne se prépare pas justement ?
Très inquiet. Alors effectivement, les COP, ça sert à réduire la crise climatique, à faire qu'on émette moins de gaz à effet de serre et moins vite que prévu pour réduire la crise climatique, mais ça sert aussi à mobiliser les capacités pour y faire face, parce qu'elle est déjà là. On a vu les méga-feux en Gironde, on a vu les inondations dans le Pas-de-Calais, à Valence en Espagne, on a vu le cyclone Chido à Mayotte, les impacts du changement climatique, ils sont déjà là. Et ils frappent qui le plus ? Ils frappent les pays les plus pauvres, les plus vulnérables, et dans les pays riches, en réalité, il frappe toujours les populations les plus pauvres, ceux qui ont les habitats les plus fragiles, ceux qui ont moins la capacité de se déplacer, de se protéger.
On essaie de parler concrètement sur un exemple. Quels sont les pays où le changement climatique a réduit les récoltes à néant ?
Alors on a le cas de la corne de l'Afrique globalement est très exposée, notamment aux grandes périodes de sécheresse et aux inondations. En Somalie, pendant une année entière, il y a deux ans, il n'a pas plu. Il n'a littéralement pas plu pendant un an. Donc vous ne pouvez pas procéder à des cultures, ni faire de l'élevage extensif qui est le moyen de subsistance là-bas. Mais du coup, cet enjeu de mobilisation des financements, pas juste pour décarboner les économies, mais pour s'adapter et faire face aux impacts, il est essentiel. Les 300 milliards dont vous parlez, Donc c'est une annonce de l'an dernier, de la COP de Bakou. Nous, on a chiffré, on a dit, si on prend tous les besoins de tous les pays en développement pour faire face à ces impacts, c'est 5 000 milliards de dollars par an qu'il faut.
Donc ce n'est pas à la hauteur des enjeux.
Donc l'an dernier, on a dit, ok, on s'engage collectivement à apporter 300 milliards, collectivement. Et jusqu'à présent, et jusqu'à aujourd'hui, y compris dans cette COP, on ne sait pas, parmi ces 300 milliards, comment on va ventiler la facture. En réalité, aujourd'hui, sur ces 300 milliards, on est plutôt à 40 milliards. Donc on est très 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 loin. Et parmi ces 40 milliards, j'en termine, c'est important, en réalité, l'essentiel de ces fonds sont donnés sous forme de prêts et pas de dons. On fait des prêts. La France, par exemple, 92% de ses financements climat alloués aux pays les plus pauvres pour aider à faire face à la crise climatique, 92%, c'est du prêt.
On va faire
un prêt à un pays pauvre qui va devoir le rembourser, qui s'endette encore davantage, qui va avoir encore plus de problèmes budgétaires. Et donc là, on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et dans cette négociation et ces rapports de force multilatéraux, c'est du donnant-donnant. Comment vous pouvez dire aux Africains, aux pays d'Asie du Sud-Est, dans une certaine mesure aux Indiens, aux Chinois, comment vous pouvez leur dire, vous décarbonez votre économie, nous c'est bon, on s'est développé pendant deux siècles à fond sur du charbon et du pétrole, maintenant on se débrouille avec le nucléaire, on va sur les renouvelables, mais vous, surtout, vous décarbonez votre économie, par contre, on vous aide pas. Et en plus, désolé, le changement climatique, c'est notre faute, mais c'est vous qui en êtes les premières victimes. Donc là, il faut le premier levier de négociation qu'ont la France, les Européens, les pays les plus riches, c'est de montrer la sincérité des négociations et de mettre des euros sonnants et trébuchants pour aider les pays les plus pauvres à faire face à cette crise climatique.
Et vous n'avez pas bon espoir que ça se passe comme ça, visiblement, dans cette COP au Brésil. Olivier est en ligne de Tours, je crois. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir à tous, de la belle ville de Tours. Je fais vite le loup dans la bergerie. Comment ça se fait que dans les COP, on laisse en fait venir des lobbies qui ont, par exemple, le lobby du pétrole, des délégations qui sont plus grandes que justement des petits pays qui sont représentés seulement là, et ces lobbies qui viennent donc en général remettre en cause la science et donc pas faire avancer les COP dans le bon sens. Et donc là, carrément, on les invite à venir, en fait, dans la bergerie pour pourrir les débats.
Merci.
Et juste une chose, c'est d'employer les bons termes de climato-négationnisme et de dérèglement, et pas juste de réchauffement climatique, parce que sinon, dès qu'il fait froid, il y a les anti-écolos qui donc « Ah oui, aïe !» Voilà,
bon,
c'est
bien.
Un dérèglement climatique.
Merci, merci d'être venu le dire ce soir sur France Inter. Lola Vallejo de la Fondation Européenne pour le Climat. Je rappelle que vous y êtes directrice de l'équipe Diplomatie. Le loup dans la bergerie, notamment les lobbies du pétrole. Et faut-il qu'il soit là pour parler de décarbonation ou le refuser ?
Moi, je pense que on assiste quand même à un raidissement très fort de ce complexe pétro-gazier, parce qu'il y a deux ans, pour la première fois, on a nommé les combustibles fossiles comme les principaux responsables de la crise climatique.
Et on a le pourcentage, c'est quoi, 80%, c'est ça?
75%, ouais. En gros, vient du CO2 émis dans l'énergie avec les combustibles fossiles. Et ça a conduit à un raidissement extrêmement fort. C'est-à-dire que depuis qu'on a dit qu'il fallait transitionner vers l'abandon des fossiles, ça a été très difficile d'avoir la moindre avancée. C'est pour ça qu'il faut saluer le fait que le président brésilien, et le Brésil est aussi un pays qui produit du pétrole par ailleurs, a dit qu'il fallait faire une feuille de route vers pour accélérer cette transition. Mais peut-être pour revenir sur la question des lobbies, en fait, quand on regarde où sont situées les ressources de pétrole, il y a effectivement des compagnies multinationales, et donc on peut parler de lobby, etc. Il y en a aussi la moitié qui sont aux mains des États et de compagnies nationales. Donc quelque part, le fait que c'est un processus multilatéral et tous les États sont invités, ça veut dire que fatalement, il va y avoir beaucoup de pays qui vont avoir un intérêt à ralentir et à envoyer des signaux d'hésitation et de confusion sur le chemin à accomplir. Donc voilà, finalement, que ces entreprises soient là ou pas, et c'est pas forcément les plus visibles, possible, mais on a aussi des pays qui ont intérêt. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on arrive aussi à leur donner un signal qui fait que cette transition sera, comme on l'avait dit il y a 2 ans, juste et ordonnée.
Nicolas Verken, on a entendu un terme très fort de notre auditeur, le climato-négationnisme. Vous validez cette expression ? À Oxfam,
qu'il y a un lobby organisé qui essaye de s'arranger avec les faits et de diffuser une idéologie perverse, c'est avéré, c'est documenté depuis les années 70. C'est difficile en 2025. C'est quand même très difficile en 2025 après ce qu'on a vu et ce qu'on a vu chez nous. Enfin, le chikungunya, le paludisme qui commence à arriver sur le territoire français.
C'est le moustique avec de l'eau et de la chaleur.
C'est des effets directs de la crise climatique. Des cours d'eau et des restrictions d'accès à l'eau, d'abord pour les piscines, puis pour arroser, puis pour l'eau potable, parce que elle va être contaminée quand ça sort. Ça, c'est sur le territoire français, et c'est aujourd'hui en 2025. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Et donc, on peut sortir toutes les études qu'on veut. La réalité aujourd'hui, on la sent, on la voit, et là, on est vraiment sur le verre à moitié vide. Et ça va pas s'arranger, ça va continuer de s'aggraver. Et plus on va tarder à agir, plus on va être non seulement en retard, mais agir peu, et plus ces impacts seront terribles, et plus le coût financier et humain sera énorme pour nos enfants et nos petits-enfants. Et donc on revient sur une question on parlait du capital, c'est pas une question de capitalisme ou d'intérêt ou de bon sentiment. Parlons économie, parlons gestion des moyens des États, des entreprises à un horizon de 30 ans et 50 ans. Chaque jour perdu aujourd'hui, chaque dixième de degré perdu aujourd'hui, on va le payer x10 dans 20 ans, dans 30 ans.
Il y a les intentions des COP et puis il y a leur faisabilité. On va parler peut-être de mesures contraignantes, non contraignantes avec vous, Lola Vallejo. La COP de Dubaï aux Émirats Arabes Unis en 2028, la sortie du pétrole, du charbon et du gaz avait été exclue de l'accord final, avec juste un appel à s'en éloigner. Ça, c'est typiquement de la compromission. Enfin, pardon, un compromis, pardon pour le mot compromission. C'est un compromis. C'était voué à l'échec. Parce qu'il n'y avait pas en même temps, dans cet accord, dans cette feuille de route, il n'y avait pas la faisabilité pour en sortir.
En fait, les COP, elles ont bougé ces dernières années de négocier des traités internationaux et les règles de mise en œuvre de ces traités internationaux, donc l'accord de Paris, à en fait un moment extrêmement politique qui fait des déclarations. Donc ça donne une sorte de thermomètre de où en est l'appétit des uns et des autres. Donc dans le même paragraphe qui parlait de se transitionner vers l'abandon des fossiles, il y avait aussi d'autres termes qui étaient un peu plus ambigus sur le rôle du gaz, etc. Ça montrait qu'il y avait aussi beaucoup de débats et en gros une pression très forte des pays producteurs, notamment, pour dire attention, tout n'est pas si clair. Donc il faut aussi remettre les responsabilités à leur place. C'est véritablement aux États de s'appuyer sur ces déclarations politiques pour continuer à impulser une dynamique. Ça veut dire, par exemple, on s'est mis d'accord sur le fait que les fossiles, c'était le problème. Est-ce qu'on pourrait élever cette question-là dans des discussions politiques en intra-européen, par exemple?
Mais pour finaliser les intentions, dont on voit qu'il y a beaucoup de perditions en cours de route, comment faudrait-il réformer les COP pour faire appliquer ce qui a été écrit?
Alors, c'est vrai qu'il y a des questions sur les COP, plutôt sur le fait de est-ce qu'elles sont trop grosses, est-ce qu'elles sont pas assez adaptées à la mise en œuvre. On parle de plus en plus du fait que maintenant, on doit arrêter de négocier, on doit passer à la mise en œuvre. Et il y a plusieurs réflexions qui sont sur la table. Est-ce qu'on invite davantage, par exemple, l'échelon local qui est aussi très impliqué dans la mise en œuvre? Est-ce qu'on essaye de se concentrer sur des choses qui vont avoir un impact à court terme, par exemple le méthane, en fait, qui est en fait le gaz naturel qui peut s'échapper et qui a un très fort pouvoir de réchauffement quand on extrait du pétrole, du charbon et du gaz. Il y a plusieurs options qui sont sur la table, mais globalement, je pense qu'il faut vraiment rappeler que c'est dans les politiques des États et dans les engagements des États, qui étaient attendus d'ailleurs à cette COP, qu'on peut voir si ces déclarations politiques se transforment en réalité.
Il est pas mal ce soir de questions encore sur les climato-sceptiques. Laurence Toubiana, qui avait été l'une des chevilles ouvrières de la COP21, elle estime aujourd'hui que la politique climatique n'a jamais été combattue avec autant de violence qu'aujourd'hui à Oxfam. Cette violence, vous la ressentez régulièrement ?
On la ressent, y compris parce que le lobby fossile, lui, ressent plus la pression. Et donc, il se défend aujourd'hui bec et ongles. On voit une collusion aussi entre des intérêts d'une industrie fossile, des grands conglomérats internationaux, certains États, et puis une idéologie réactionnaire. Qui va non seulement faire du climato-sceptisme et négationnisme, mais qui va avoir des pratiques antidémocratiques, en menaçant des activistes, en falsifiant des faits, en supprimant, quand ils accèdent au pouvoir, les subventions à celles et ceux qui essayent justement de faire avancer cette cause climatique. Donc ça, on le voit. Je voulais juste rebondir sur quelque chose. À nouveau, les acteurs principaux des COP, ce sont les États. Il y a aussi les ONG, il y a aussi les entreprises. Mais l'échelon local, il est super important.
Notre auditeur en parlait tout à l'heure.
Et on va avoir des municipales, et on voit, on sait bien qu'actuellement...
On va essayer de ne pas faire de politique sur ce débat,
Donc on sait qu'on a un échelon national qui est peu performant en ce moment, pour X raisons, mais on a des territoires qui sont en mesure de faire bouger les choses, qui sont en mesure, par la commande publique, de choisir des équipements qui sont plus ou moins énergivores, qui peuvent choisir d'accompagner les ménages sur leur territoire en situation de précarité dans la rénovation thermique de leurs bâtiments, qui peuvent choisir aussi certains investissements pour adapter leur territoire en fonction des territoires, pour qu'ils soient mieux aptes à faire face aux inondations, aux méga-feux, aux vagues de sécheresse. Et là, c'est un vrai enjeu démocratique aussi de s'assurer que nos collectivités locales s'impliquent, quel que soit ce qui se passe au niveau de l'État, vraiment dans des politiques climatiques volontaristes.
Eh bien, merci à tous les deux. Et je remercie, on l'a perdu en cours de route, mais elle avait autre chose à faire pour ce soir, la journaliste, ma consoeur Sandy Dauphin, en direct de Belém.